Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdua et c'est l'heure de l'interview avec au studio aujourd'hui Marie-Claire Herny. Bonjour.
Bonjour.
Marie-Claire, vous êtes avec nous pour nous annoncer une exposition qui débute ce 2 juillet avec jusqu'au 31 juillet, donc 2026, à l'ancien monastère Sainte-Croix. Et pour cela, vous allez nous présenter une série de kakémonos que vous avez donc créé. Vous nous expliquerez un peu cette technique et les inspirations aussi, puisque c'est aussi un travail sur le textile que vous pratiquez également. Vous nous expliquerez un peu comment vous opérez. Alors, cette exposition permettra de découvrir vos derniers travaux, j'imagine.
Oui, c'est ça. Il y a des choses plus anciennes, mais il y a toute une série de nouveaux travaux en fait, sur la thématique des animaux et des cultures et des environnements en voie de disparition. Parce que je pense que si on montre ce qu'il y a de beau sur la planète, ça peut peut-être sensibiliser différemment. En tous les cas, j'ai l'illusion de le croire.
Donc, l'inspiration sont essentiellement de l'ordre animal, floral également ?
Animal, végétal, oui. Essentiellement, oui.
Cet amour pour le kakémono, quelle a été cette découverte ? Et à partir de quand vous travaillez sur cette technique ?
Alors, donc moi je suis artisan d'art dans le textile. Je suis basée en Alsace. Je fais partie de la Fédération des métiers d'art d'Alsace. J'aime bien travailler en séquence. J'ai eu une période picturale et je faisais des diptyques, triptyques, etc. Ce qui m'a amené à faire après des paravents, parce que c'est un peu la même conception. Et en fait, j'aime bien ce format très vertical. Je trouve que ça donne un élan au motif. Et puis, j'ai une inspiration, entre autres, pas seulement, mais j'ai une inspiration japonaise, parce que faut être objectif, ce sont des vrais maîtres de l'art graphique et que voilà, ils ont effectivement aussi traité essentiellement la nature et voilà, donc je me le suis approprié.
Le textile, c'est un support pour vous. C'est aussi une conception de votre part de proposer ou de tisser peut-être vos propres trames.
Alors, je viens d'une région qui était une ancienne région textile. En plus, je suis de Mulhouse, qui est vraiment une ancienne ville industrielle liée au textile. Je ne crée pas la matière. Par contre, je participe au fait que le microcosme textile se remonte dans notre région. Maintenant, il y a de nouveau des filatures et des usines de tissage dans les Vosges. Et donc, d'ailleurs, au monastère, je propose une exposition de pièces uniques, peintes à la main. Ça, c'est ce qu'il y a dans les couloirs et dans le salon. Et de ce travail-là, je le décline en collection imprimée. Et donc, j'ai aussi ramené des objets, des coussins, etc. Et ça, c'est fait vraiment... J'ai le label Alsace Textile parce que je suis sur Mulhouse. C'est imprimé à 30 km de chez moi. Il fait travailler les couturières de sa vallée. Et voilà, j'essaye de participer à ce renouveau du textile en Alsace et dans les Vosges.
Donc, une zone un peu en synergie pour... cet aspect du textile, ça permet de développer pas mal d'activités, dont la vôtre.
En tous les cas, je me dis que ça ne sert à rien de se plaindre de ce qui a disparu. Quand ça commence à renaître, autant participer au mouvement. Ça me paraît pertinent de faire dans le local. L'imprimeur chez qui je vais quand je fais du coton ou du lin, maintenant tous ces matériaux sont sourcés pour être filés, tissés dans les Vosges. Et voilà, je trouve que... C'est une petite goutte d'eau dans l'océan, mais enfin, elle a le nom d'exister.
Ces textiles, comme vous le disiez, c'est coton, lin, alors, principalement, ou alors il y a d'autres fibres ?
Alors, dans l'exposition de pièces uniques, il y a beaucoup de lin, dont forcément du lin normand, du coton, et de la ramise, qui est un tissage d'ortie sauvage coréen. Et voilà, oui, quand je travaille en pièce unique, c'est sur des matières naturelles.
Donc, vous parlez de créer sur des formats plutôt verticaux. Hein. On peut se référer, comme vous le disiez auparavant, et puis à ces kakémonos. D'ailleurs, c'est une école pour vous, cet art du kakémono, qui vous a inspiré ou peut-être amené à travailler sur cette activité ?
Non, pas particulièrement, mais c'est vraiment le format qui m'intéresse, parce que ça, c'est on a plus l'habitude de formats plus rectangulaires, certes, mais pas aussi élancés. Et je trouve que c'est un exercice de style intéressant.
Vous parliez de paravent, un objet quasi disparu, mais qui aurait tendance à revenir dans l'intérieur mobilier.
Alors, il revient, oui, effectivement, dans les pièces de design, il revient. Après, quand on conçoit un paravent, ça peut être aussi des pièces qu'on peut utiliser en séparation de pièces, c'est-à-dire des choses qu'on peut suspendre, et donc d'avoir une série de formats verticaux, mais qui sont juste dans l'espace, quoi.
Est-ce qu'il y a des hauteurs déterminées, ou alors vous essayez d'accéder au plus haut possible ?
Oh bah, y a une limite pratique.
C'est celle du plafond.
Après, un paravent est censé cacher la vue, donc c'est bien qu'il soit à 1,80 m. Là, pour le coup, je n'en ai pas ramené des paravents. J'ai ramené justement des panneaux qu'on peut mettre dans l'espace, mais je n'ai pas ramené de paravent. Mais par contre, j'ai ramené des kimonos aussi.
D'accord, vous nous en parlerez un peu aussi. Donc le kakémono, c'est surtout du kakémono dont je demandais par rapport à la hauteur. Est-ce qu'il existe des limites du kakémono ? Ça dépend du lieu où il sera posé ou...
Oui, je suppose qu'au Japon, il doit y avoir certainement des codes et des normes s'agissant de cela. J'avoue que moi, j'ai vraiment fait comme j'avais envie de faire. Donc il y a différents formats, différentes verticalités. Je ne me suis pas imposé particulièrement une norme.
Là, par exemple, il y a cette affiche hein, pour cette exposition. Alors, il y a ces primates.
Ce sont des lémuriens, des maquis.
Pour cela, il y a cette affiche, mais qui est un détail, hein,
détail,
d'un panneau.
Oui.
Et donc, comment vous abordez justement l'application graphique d'un animal sur ce support ? Est-ce qu'il y a un esprit de synthèse pour amener le minimum d'intervention graphique sur ce support ?
Alors, dans la partie de l'exposition qui est vraiment en lien avec les animaux en voie de disparition, je me suis mis une contrainte toute seule, c'est-à-dire que je me suis mis en contrainte de n'utiliser que 3 couleurs. Donc, il y a du noir, du blanc et un rouille bronze. Ce qui permet de simplifier un peu le traitement de la chose, parce que dans mon travail, j'ai aussi des choses très, très colorées. Mais là, on est sur fond lin et je me suis dit, je vais faire quelque chose de calme. Et justement, ça fait un petit peu aussi photo sépia, comme des choses anciennes, comme si c'était déjà un souvenir, alors qu'ils existent quand même encore. Mais justement, j'avais envie de faire une espèce d'évocation un peu passée pour dire que non, il ne faut pas que ça devienne un souvenir, quoi. Ils sont encore là, il faut protéger tout ça, quoi. Donc, j'ai décliné Il y a des lémuriens, il y a un pangolin, parce que cette pauvre bête, on lui a mis tout sur le dos, mais il n'avait rien demandé, lui. Et c'est un bel animal, c'est très étrange. Il y a du corail, il y a des papillons monarques qui sont connus pour leur énorme rassemblement de millions de papillons au Mexique quand ils transhument. Et en fait, leur environnement change et eux-mêmes, ils disparaissent, alors que justement, ils étaient connus pour la masse. Et voilà, donc j'ai décliné des haras bleus, des... Voilà, tout un... Et aussi, il y a un panneau qui parle de culture en voie de disparition. C'est un panneau qui est inspiré des appliqués que font les pygmées dans les forêts du Zaïre, qui ressemble comme ça à une espèce de labyrinthe très graphique. Et j'ai aussi une mangrove, parce que ça, c'est le type de milieu qui a tendance à souffrir actuellement.
Le support est plutôt écru. Hein,
couleur lin, brut.
Couleur lin. Mmh. Le coton, pareil.
Alors, quand c'est sur coton, c'est souvent sur fond noir.
C'est sur fond noir, d'accord. Et donc, pareil, hein, vous amenez de la lumière dans l'obscurité.
C'est ça.
Et Comment ce travail, alors vous dites peindre, est-ce que vous avez aussi peut-être établi un gabarit qui puisse répéter, ou alors chaque être ou chaque individu sur ces supports sont d'une pose différente ou...
Ah oui, c'est chaque fois différent. Et même si je suis amenée à refaire, par exemple, un panneau sur les Lémuriens, je ne vais pas le faire de la même manière, ne serait-ce que pour ne pas m'ennuyer moi-même.
Combien de pièces seront présentées donc pour cette exposition ?
Oh, il doit y avoir une vingtaine de pièces, je pense, en tout. Je n'ai pas compté.
Oui. Et qui pourront peut-être être échangées de temps en temps lors de cette période ?
Éventuellement, oui. Ouais,
peut-être qu'il y a des réserves pour...
Pas tant que ça.
Pas tant que ça, d'accord. Ça prend un temps fou pour en créer un, kakemono ?
Bah, ça dépend lesquels.
Ouais.
Dans le monastère, il y a un salon de massage. Hein, et dans ce salon de massage, je vais mettre une pièce que je voulais un peu protéger parce qu'elle est fragile. Hein, où c'est un triptyque peint sur coton. J'étais partie sur la thématique des lucioles parce que j'étais tombée sur une photo du vol des lucioles au Japon que je trouvais extraordinaire, comme ça, des sous-bois, la nuit tombée. Et donc, je l'ai traité en peinture, mais chaque luciole, c'est un cristal de bohème brodé. Et je ne m'imaginais pas que ça allait me prendre autant de temps. Donc, il y a certaines pièces dans l'exposition, comme les kimonos, par exemple, et cette pièce-là qui m'ont pris un mois. Après, il y a des panneaux qui vont évidemment plus vite. Mais c'est vrai que globalement, je ne compte pas mes heures parce que d'abord, en termes de dynamique de travail, ce ne serait pas une bonne idée. Moi, j'ai besoin d'être très zen quand je travaille. Mais oui, ça prend évidemment, ça prend un temps certain.
Vous parliez donc de faune, de flore, de végétaux. Pareil pour les plantes. Est-ce qu'il y a une prédilection pour des plantes qui tendraient à disparaître également ?
Alors, je n'ai pas encore traité ça, mais il y a une des thématiques que j'aimerais bien faire. Mais bon, comme beaucoup de choses, les idées ne manquent pas, mais il faut un petit peu de temps. J'aimerais beaucoup traiter les arbres parce que dans toutes les civilisations où l'arbre est présent, il a une symbolique très forte, comme axe du monde, comme lien terre-ciel, etc. Et selon les pays et les civilisations, ça peut être le chêne, le sapin, le bouleau, etc. Et donc, c'est un de mes axes de travail futurs, c'est de travailler sur les arbres.
La chaleur animale dedans les yeux et dans nos bras, la chaleur animale. Quand tout aura duré, quand rien n'aura cessé dans ce feu qui sommeille. Et jamais ne faiblir, on se blottira. Tu me diras, ici, c'est là-bas, ailleurs. N'existe pas. Ah. Ailleurs n'existe pas. restera la chaleur animale dedans les creux au fond des voies. La chaleur animale quand tout aura déçu, quand tout aura vécu dans ce feu qui nous veille. Et jamais ne trahit, on se blottira. Tu me diras, ailleurs n'existe pas.
Côté graphique, est-ce qu'il y a une sorte de tradition de représentation animale sur laquelle vous avez étudié, ou alors c'est votre création propre ?
Non, alors là, vraiment, moi, je le fais vraiment comme je le sens. Après, le choix des animaux, c'est parce qu'ils me, ce qui me rendent comme émotion, on va dire, quoi. Et les lémuriens, c'est arrivé parce que j'avais fait des poissons, des oiseaux, etc. J'avais pas fait de mammifères, et je le trouve, enfin, il est très graphique, il a une queue rayée, il a des grands yeux, voilà. Donc ça, des fois, ça peut être juste ça, le déclenchement. Bon, là, en plus, il est endémique de Madagascar, et donc ça veut dire que s'ils sont pas bien là-bas, c'est un problème, vraiment. Donc voilà, il cochait un peu les deux cases de ce qui va me déclencher une envie de le peindre.
Voilà, un pelage tout en nuances, hein, avec ces deux couleurs, entre le noir et ce bistre. Je ne sais pas si on peut parler de cette couleur. Et puis, il y a, je dirais, un côté sobre de votre proposition. Donc, il y a aussi une recherche pour aller à la simplicité d'une représentation.
Bah, c'est-à-dire que je peux être très... Je peux être très foisonnante au niveau des couleurs, surtout quand je travaille sur fond noir, parce que ça, enfin, ça a une présence. Mais effectivement, de faire le choix de la sobriété, c'est pas un choix forcément simple. Hein. Ça demande d'être plus synthétique et d'aller plus vite au propos. Mais c'est très intéressant, en fait. Là, les panneaux que j'ai faits comme ça, en fait, ça me plaît bien, parce que ça permet de traiter le végétal. Tous les végétaux, je les ai faits en une seule couleur seulement. Et comme ça, ça fait ressortir les animaux qui sont dans le panneau. Et enfin, voilà, c'est un exercice de style qui est intéressant à pratiquer.
Au-delà de ces kakémonos, et aussi d'auparavant, vous proposez d'autres supports. Hein. Je vois là, par exemple, ça peut être des coussins, des sacs. Il y a une grande variété de propositions, quand même, au-delà de cette exposition, hein, dans votre activité artisanale.
Oui, bah, c'est-à-dire que comme je décline, à partir de mes peintures, je décline en impression. Du coup, ça permet de faire des petits objets que je ne ferai pas à la main. Comme des coussins, des petites pochettes, des étuis à lunettes, etc. Et j'en ai rapporté au monastère, il y en aura dans la boutique. Et donc, oui, ça permet de faire des petites choses et puis aussi de démocratiser mon travail parce qu'évidemment, une pièce unique n'a pas le même prix qu'une pièce imprimée. Donc,
Une inspiration quand même qui émane de l'Extrême-Orient au niveau du graphisme, cette manière de peindre les animaux, les poissons également. Les estampes, par exemple, sont un travail qui vous a intéressé également ?
Moi, j'aime bien aller voir les créations contemporaines ou anciennes d'un peu partout dans le monde. Je trouve que le génie humain, en termes de créativité, est souvent vraiment intéressant. Donc voilà, après j'en fais un peu mon style, je l'interprète. Je pense que même que je passe du japonisme ou des travaux qui font un peu planche botanique ou des choses très ethniques, etc., au final, j'ai l'impression qu'on reconnaît quand même mon style. Il y a quelque chose de constant. Mais après, c'est vrai que les inspirations graphiques, elles sont multiples. Moi, j'aime me promener dans la montagne, j'aime aller voir des expositions d'art contemporain ou d'artisans d'art ou d'illustrateurs, etc. J'aime me plonger dans l'artisanat du monde entier. Et voilà, après, ça décante, ça sédimente et puis ça ressort différemment. Voilà.
Comment avez-vous acquis cette connaissance, ce savoir-faire ? Une formation, certainement, au départ ?
Alors, il fut un temps un peu lointain, j'ai fait les Beaux-Arts. Mais j'ai eu plusieurs vies de travail. J'ai été graphiste publicitaire pendant pas mal d'années. Alors après, comme ça ne remplissait pas toutes mes envies créatives, j'ai toujours travaillé la nuit, le week-end, et je faisais des expositions à côté de mon travail. Et puis, un beau jour, j'ai pu inverser le pourcentage de temps passé aux choses. Et maintenant, je ne fais plus que ce travail textile.
Alors, il y a le dessin et puis la couleur appliquée par peinture. C'est quelle peinture que vous utilisez pour ce travail ?
Alors, c'est une peinture spécifique pour le textile qui se fixe à chaud, ce qui permet aussi d'être lavé. Évidemment, pas faire bouillir, mais enfin, voilà. Et en fait, c'est une peinture qui est très pigmentée, donc elle est très couvrante. Et elle s'applique un peu comme de l'acrylique sur une toile. Je veux dire, c'est pas plus compliqué en termes de technique qu'une peinture classique.
Toujours par touche, par contre. Il n'y a jamais de dégradé.
Si. Il y a aussi.
Ah, je pensais que c'était une juxtaposition de deux couleurs par trait.
À partir du moment où vous avez une trame de tissu,
oui.
Vous avez un grain.
Oui.
Et après, il faut apprivoiser la matière parce que même dans les lins, ils ne réagissent pas tous de la même manière. Donc, il y a un temps nécessaire à savoir si la surface est plus poilue ou si elle est plus lisse, etc. Ça ne réagit pas de la même manière. Mais après, on en fait ce qu'on veut, comme dans une peinture classique.
La transmission, c'est aussi un sujet que vous pratiquez
C'est un sujet qui me pose question parce que pour l'instant, j'ai l'impression que j'ai pas grand chose à transmettre dans le sens où c'est ma main. Et voilà, c'est pas une technique, comme dit, particulière ou c'est ma main. Mais ça me pose question parce que j'aimerais bien pouvoir transmettre quelque chose, mais pour l'instant, je ne sais pas encore par quelle boule prendre, mais je vais trouver.
Cette exposition, donc, jusqu'au 31 juillet, il y aura votre présence effective à partir du 20. Mm-hmm. Votre présence pour converser avec le visiteur et puis de présenter aussi d'autres travaux qui ne sont pas forcément exposés, d'échanger.
Alors, on n'a pas encore mis le calendrier en place avec le monastère, mais on va mettre quelques jours où je serai vraiment là. Parce que je serai dans la région, mais pas forcément là. J'ai l'intention de faire aussi quelques marchés avec justement les collections imprimées. Donc je vais certainement être à 10 au marché. Je vais tourner un petit peu. Mais oui, on va mettre en place un calendrier où je pourrai recevoir les personnes qui viennent voir l'exposition, puis leur faire des visites guidées. Et alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que dans l'exposition, il y a une autre artiste qui est sculpteur céramique. qui fait des personnages comme ça, très zen. Elle n'a malheureusement pas pu faire l'exposition qu'elle aurait aimée, voilà, pour raisons personnelles. Mais il y a, dans le petit salon, il y a trois sculptures d'elle quand même, symboliquement, elle est quand même là. Elle s'appelle Gabi Kretz et elle est sculpteur céramique.
Est-ce que vous travaillez aussi dans un secteur de croquis, de prise sur la nature?
Oui, ça m'arrive, ouais. Oui, ça m'arrive. Et après, quand le motif existe, il peut se décliner dans plein de supports différents. Par exemple, la fougère qui est au tout début de l'exposition au monastère. Dernièrement, je l'ai adaptée pour faire de la toile tendue comme les plafonds tendus dans un restaurant. Et du coup, ma fougère a 10 mètres de long et ça change complètement la perception du dessin. Et ça peut être décliné en papier peint. Ça peut, enfin, à partir du moment où le motif existe, on peut en faire vraiment plein de choses. Parce que je l'ai fait prendre en photo avec le maximum de définition. Et du coup, c'est déclinable vraiment sur plein de supports différents. Et c'est très intéressant de voir le changement d'échelle et ce que ça fait, en fait.
Il y a un aspect, vous savez, de ce graveur Durer. C'est, vous vous intéressez aussi à l'histoire de l'art,
Sûr,
notamment
ouais.
La gravure, hein, j'imagine.
Bien sûr. Et puis là, en fait, c'est ce panneau-là qui est sur Rami, donc sur Ortie Sauvage. Et je trouvais que le tissage en soi était déjà super intéressant. C'est un peu translucide. Enfin, c'est une belle matière. Donc, je n'avais pas du tout envie de charger le motif avec trop d'informations. Donc, j'ai vraiment fait une fougère très comme une planche botanique. Et oui, je trouve que ça fonctionne bien sur ce support-là.
L'impression, par contre, ça exige, ça vous permet d'avoir beaucoup plus de couleurs. Par quel biais vous proposez ce travail? Est-ce que vous avez affaire, vous le disiez, à un imprimeur ou
oui,
un sérigraphiste?
Oui.
Quelle technique c'est?
Non, c'est un imprimeur, c'est de l'impression numérique.
Oui.
Alors ça, c'est le bon côté des avancées technologiques. Il fut un temps, d'ailleurs je l'ai déjà pratiqué aussi, les impressions textiles étaient par rotative et par séparation de couleurs. Donc chaque couleur demandait un cylindre. Et c'est des machines énormes. Et en dessous de 1000 mètres linéaires, ils ne lançaient pas la machine. Donc, j'ai eu l'occasion de faire l'étoffe de la ville de Mulhouse en 2023. Ça, c'est une spécificité de ma ville où chaque année, ils éditent un tissu pour la fin de l'année. On a fait 15 kilomètres. OK, là, ça vaut la peine de passer par ce genre de machine. Mais en numérique, on peut sortir 2 mètres de tissu et c'est possible. Et donc, du coup, moi, ça me permet de travailler parce que j'ai maintenant, à l'heure actuelle, je dois avoir une vingtaine de collections et je ne fais jamais des gros tirages. Ce sont des séries limitées. Et du coup, le numérique permet ça.
Et quelles sont ces encres utilisées pour cette technique? J'imagine que sur un tissu, ça demande à une encre peut-être plus épaisse que...
Alors, c'est, le support, c'est du velours.
Oui.
J'aime bien ce support-là parce que, en termes de couleurs, c'est extrêmement fidèle à l'original. Après, techniquement, vraiment, si on rentre dans la technique, je ne pourrais pas vous expliquer. Mais voilà, comme dit, c'est du numérique sur velours.
Et donc, ce noir aussi apporte ce contraste et ravive la couleur hein, sur laquelle.
Déjà, l'original, déjà, ça m'amuse assez de travailler sur du fond noir parce que, en fait, c'est ramener de la lumière dans un fond très sombre. Et en l'occurrence, en impression numérique, ça sort très, très bien.
Justement, d'un support créé à celui d'un support imprimé, quelle est la transition? Est-ce que c'est une photographie? C'est un scanner qui...
Je passe par un studio photo, effectivement, qui, comme dit, me fait ça. Je demande le maximum de définition et pour les collections et pour me créer une bibliothèque d'archives que je peux après appliquer sur plein de supports, comme dit, même en 10 mètres de long. Et donc, c'est une transition photo. Et après, je travaille... pour l'instant, je ne fais pas du tissiomètre. J'ai commencé à en faire pour les tapissiers. Mais pour l'instant, les collections que je présente en collection imprimée, ce sont des... On appelle ça du motif placé, c'est-à-dire que je retravaille le motif chaque fois pour chaque objet. Le motif est retravaillé en fonction du format.
En tout cas, c'est un travail tout en qualité. Et c'est aussi la clé pour pouvoir trouver un plus grand nombre de distributeurs de votre production.
Alors, pour l'instant, c'est une distribution assez confidentielle.
Oui. Mais peut-être suffisante ou... Non, parce que moi, j'ai fait les Beaux-Arts aussi. Mm-hmm. Et il y a des artistes qui ont une certaine réputation, une renommée, qui n'ont pas besoin de publicité parce que ce qu'ils produisent part déjà aussitôt. Hein, donc,
oui, alors c'est vrai que dans mon réseau de diffusion, je travaille beaucoup avec les boutiques de créateurs. Je suis aussi au musée de l'impression sur étoffe à Mulhouse, enfin, dans des lieux comme ça.
Malgré tout, il y a certainement une demande aussi.
C'est-à-dire que comme je ne m'intéresse absolument pas aux tendances,
oui.
Je fais vraiment ce qui me porte.
Oui, mais justement,
du
c'est...
coup, je pense que je remplis une case, hein, dans le sens où je ne suis pas dans l'uniformité graphique globale. Et que les gens qui ont envie de couleurs, de choses un peu... c'est même pas décalé, je dirais même pas que ça soit décalé, mais enfin, en tous les cas, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut voir de manière classique dans une boutique de déco. Et du coup, je pense qu'effectivement, il y a un certain public qui a envie de ça, quoi.
Et puis, ça invite aussi... Il y a un aspect onirique, un peu, de ce que vous proposez. Hein.
Bah oui, parce que même quand je traite des poissons ou des nénuphars, il y a... Effectivement, j'aime bien que par le sujet, ça raconte une histoire. Même. Et puis, chacun fait la sienne. C'est libre à chacun d'y trouver ce qu'il veut, quoi.
Vous parliez tout à l'heure de ce processus de création qui demande une certaine... sobriété.
Alors en fait, j'ai deux manières de travailler différentes. Ou je fais un travail graphique fouillé. Par exemple, il y a le kimono qu'il y a dans le petit salon du monastère. C'est un kimono avec des chrysanthèmes. Il est rebrodé aussi. Dans ce genre de travail, je fais un dessin préparatoire que je reporte sur le tissu. Et après, il y a tout un travail qui est très zen, hein, que j'aime beaucoup aussi faire, j'alterne, qui est plus un travail géométrique ou un travail de motifs, mais qui sont un peu répétitifs. Et ça, c'est vraiment... Oui, c'est un travail zen, en fait. Ça, c'est un décollement du temps. C'est presque la main qui travaille toute seule. Et j'aime beaucoup être aussi dans cet état-là pour travailler. Parce que je pense aussi qu'à l'arrivée, les pièces transpirent ça. Et j'ai bon espoir que les gens qui acquièrent mes pièces le ressentent. Et voilà. Moi, en tous les cas, quand je les fais, je suis dans une bonne énergie. Donc.
Marie-Claire, au-delà du kimono, du kakemono, du paravent, est-ce qu'il y a d'autres déclinaisons sur lesquelles vous travaillez?
Eh bien, pour cette exposition-là, j'ai eu une idée en allant voir le film de Vincent Munier, Le Chant des Forêts, parce que c'est un film qui traite de la disparition du grand tétras, en l'occurrence dans ma région. Et ils finissent par le trouver en Norvège et il y a un gros plan sur son œil où vraiment il est presque accusateur. Et du coup, ça m'a donné une idée et j'ai exposé une pièce de 12 regards de différents types d'animaux, que ce soit poissons, oiseaux, mammifères. Et le 13e, c'est l'œil humain. C'est celui qui met un peu le bazar dans tout ça. Et ils sont collés dans des cibles de chasse. Voilà, comme ça, on n'a pas besoin de grands discours. A priori, on comprend.
Est-ce que vous écoutez Concerto pour piano de John Cage?
Alors, je chante dans un chœur. Et donc, j'écoute et notre répertoire et pas mal d'autres musiques. Voilà.
Voilà, non, je posais cette question parce que c'est une composition qui a été opérée en plein carrefour dans New York, et où toute activité a été cessée pour pouvoir écouter un concerto muet de John Cage au piano. Voilà. Et donc, je voulais savoir s'il y avait une ambiance musicale quand vous travaillez ou alors
c'est
plutôt le silence.
Ça dépend. Ça peut être de la musique, ça peut être du silence, ça peut être des podcasts qui m'intéressent, ça dépend.
Vous auriez un morceau à nous proposer pour finir l'émission?
Alors, en venant, je me mettais de la musique dans la voiture et je me suis dit, ah, parce qu'en général, quand je fais des publications sur Instagram, j'aime bien associer de la musique à ce que je présente visuellement. Et j'ai un panneau dans le petit salon que j'ai travaillé. Alors, c'est géométrique, enfin, c'est très graphique, c'est pas figuratif. Et j'ai essayé de travailler entre le stable et le mouvement. Il y a une structure comme ça, très rectiligne. Et là-dedans, j'y ai mis des vagues. Et en venant, j'ai écouté le Stabat Mater de Vivaldi. Et c'est exactement ça. Il y a une espèce de scansion sur tout le long. Et c'est la voix qui fait le mouvement, quoi. Et je me suis dit, ah, j'aurais dû mettre ça sur ma publication, ça aurait été parfait, quoi.
Eh ben, je mettrai pour finir cette émission, du moins. Il y a un interprète en particulier sur lequel vous avez une préférence?
Le Cum Dederit, chanté par Andreas Scholl.
Très bien. Cette exposition, donc... est visible jusqu'au 31 juillet à l'ancien monastère. Vous avez vous-même des sites internet pour trouver votre travail. Hein. Vous avez un compte Instagram pour
Alors,
cela.
J'ai deux comptes Instagram. J'ai marieclairez.ernie pour tout ce qui est pièces uniques. Après, j'ai lebon.motif pour tout ce qui est plutôt collection imprimée. Je suis sur Facebook à mon nom, Marie-Claire Ernie. Et j'ai un site qui reste encore valable, mais qui est un peu ancien, à une période où je faisais vraiment beaucoup de choses différentes. Donc voilà, c'est un peu tous mes corps de métier, mais c'est plus tellement d'actualité, vu que là, je me suis plus spécialisée.
Marie-Claire Ernie, merci beaucoup d'être venue sur RDWA pour nous présenter votre exposition donc, à l'ancien monastère de Sainte-Croix.
Merci à vous.
Je vous souhaite une bonne soirée.
À vous aussi.
Au revoir.
Au revoir.
Stabat Mater Dolorosa, juxta crucem lacrimosa, contristat.